la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette saison à la croyance, le sociologue Gérald Bronner propose d'analyser l'émergence de nouvelles formes de crédulité dans le monde contemporain.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à la BNF. Je m'appelle Lucie Maillan, je suis la chef du service philosophie-religion et je suis ravie aussi d'accueillir Gérald Bronner, qui est sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, pour une conférence sur l'empire contemporain de la croyance. Alors, je voulais préciser, mais je pense que vous avez été nombreux à recueillir les flyers sur l'exposition « La France sous leurs yeux ». Et je voulais préciser que cette conférence, c'est une conférence exceptionnelle au croisement de deux événements à la BNF en ce moment. D'une part, le cycle « Philosophie du quotidien », dont l'édition 2024 est entièrement consacrée au thème de la croyance, et d'un événement culturel qui est très important pour notre établissement, qui est l'exposition « La France sous leurs yeux », qui présente les travaux de 200 photographes lauréats d'un concours qui a permis à la BNF de financer des enquêtes photographiques sur la France aux sorties de la crise sanitaire en 2020. Donc c'est plus qu'une expo de photographie, puisque l'idée, c'est vraiment de mener des réflexions croisées sur la spiritualité, l'engagement, la psychologie aussi, et puis la spiritualité et la croyance. Donc je vous invite à découvrir cette exposition et à prendre les petits flyers qui sont à l'entrée de l'auditorium. Et je voulais signaler aussi que ce soir, nous avons une conférence de la philosophe Angélique Théber sur l'éthique de la croyance qui sera dans ce même auditorium à 18h30. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Éric Mougenot qui va présenter rapidement la conférence de Gérald Bronner. Et je vous remercie tous d'être là.
Merci. On a bien mâché le travail. Est-ce que vous m'entendez? Les micros fonctionnent? Parce que je ne vois pas de lumière. Donc, aujourd'hui, le cycle consacré à la croyance va mettre ses pas dans ceux de la sociologie, et en particulier dans ceux de Gérald Bronner. L'objet de recherche, le champ d'étude de Gérald Bronner, ce sont les croyances collectives et la sociologie cognitive. Alors, bon, rappelez quelques titres, « L'Empire des croyances », avec une nouvelle édition chez PUF en 2018, La pensée extrême, comment les hommes ordinaires deviennent des fanatiques, réédition 2016, sans doute un ouvrage qui est plus que jamais d'actualité. La démocratie des crédules, 2013. Et le dernier livre, au titre diablement intrigant, qui s'appelle Exorcisme, publié chez Grasset en 2024. Alors certains y ont vu un parallèle avec une pratique des historiens qu'ils appellent l'égo-histoire. L'objet et le nom a été créé, forgé par Pierre Nora, c'était en 1987, si ma mémoire est bonne, oui. Essai d'égo-histoire, où il s'agit d'éclairer sa propre histoire comme on ferait l'histoire d'un autre. Alors on pourrait dire que ce livre Exorcisme, un livre d'égo-sociologie, mais je crois qu'on passera à côté de l'essentiel, parce que je trouve que ce livre, qui est un livre de sociologue, malgré tout, objectif comme pourrait l'être un livre d'égo-histoire, est aussi un livre émouvant et à portée universelle, parce qu'on y trouve abordés des sujets qui nous concernent tous. Il y a la nostalgie de la jeunesse, c'est le moment où on désire changer le monde, mais c'est aussi le moment des errances. C'est un livre sur l'amitié. Alors, ça peut être des amitiés qui nous font, qui nous construisent, et vous insistez beaucoup sur le rôle des pères dans la construction de soi, mais ça peut être aussi des amitiés qui nous défont. Et vous insistez également sur l'imaginaire et la lecture, ce qui, évidemment, touche les bibliothécaires que nous sommes. Vous avez également publié un roman, « Comme les dieux » chez Grasset en 2022. Et j'avoue que vos propos m'ont fait penser à Paul Ricoeur, avec le rôle que joue la narration, l'histoire qu'on se raconte, l'histoire qu'on raconte aux autres, et qui forge cette identité qui est toujours finalement plus ou moins mythique, que cette identité soit individuelle ou collective. Il s'agit au fond d'une question principielle, c'est de savoir ce qui en nous vient de nous et ce qui en nous ne vient pas de nous. parce que nous sommes tous les héritiers de ce qui nous précède. Alors la question est de savoir, c'est que faisons-nous de ce qui en nous n'est pas de nous ? Et c'est évidemment par l'imaginaire, par le langage, par la relation à autrui, qu'on arrive à se forger une origine. Et d'ailleurs, vous avez forgé une identité, pardon. Vous avez d'ailleurs publié en 2023, un ouvrage intitulé « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est ?» Et ce qui m'a frappé, c'est que le sous-titre n'est pas « Comment devient-on qui l'on est ?» mais « Pourquoi ?» Bon, je crois que je vais m'arrêter là et vous passer la parole pour cette conférence qui s'intitule « L'Empire contemporain des croyances ». C'est à vous.
Fonctionne ? Ah, ça y est, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, cher ami, de cette belle introduction. C'est toujours très agréable d'être introduit par quelqu'un qui nous a lu et si attentivement. Ça me fait grand plaisir. Merci donc à toute l'équipe de la BNF de son invitation dans ce beau cycle, je dois vous dire. Je vais faire un peu de la retape parce que je connais beaucoup des noms des gens qui vont prendre la parole autour de la croyance et ils sont à la fois passionnants et très sérieux. Donc vous aurez de la chance si vous avez la possibilité de suivre l'intégralité de ce cycle. Et d'ailleurs, l'évocation de ce cycle me permet d'introduire mon propre sujet, celui qu'on m'a demandé de traiter, à vrai dire, l'empire contemporain des croyances. Et je profiterai de la présence future dans le cycle de gens comme par exemple Pascal Engel, un grand philosophe analytique, pour ne pas moi-même, puisque je suppose qu'il le fera un peu et mieux que je ne pourrais le faire, développer des conjectures et des réflexions autour de la définition de ce que c'est que la croyance et des rapports entre croyance et connaissance. Ce n'est pas que le sujet ne m'intéresse pas, il m'a beaucoup intéressé dans un livre qui s'appelle « L'Empire des croyances », j'y consacre des dizaines de pages, mais je préfère laisser parler plus tard le philosophe sur cette question et traiter le sujet en sociologue, et notamment un sociologue qui va, comme nous tous je crois, s'intéresser à un phénomène contemporain qui est à la fois fascinant et en même temps un peu inquiétant. Donc pour évoquer ce thème, je vais m'inspirer principalement de trois livres que je me permets de mentionner, même s'ils ont été déjà un peu mentionnés, sauf peut-être Apocalypse cognitive d'ailleurs. Donc l'Empire des croyances, c'est une approche plus universitaire sur ce que sont les croyances et par exemple la définition de la crédulité et de son rapport à la connaissance. Disons que grosso modo, l'état de connaissance, dans le sens fort du terme, est, en tout cas c'est la thèse que j'essaie de défendre, est un état de rareté dans notre vie mentale. La plupart du temps, et à propos de toutes sortes de sujets, nous avons plutôt un rapport de croyance. Et là, il ne faut pas confondre la croyance et la fausseté. Il peut y avoir des croyances vraies, par exemple. Je crois peut-être que, je ne sais pas moi, après-demain, il va faire beau parce que la météo me l'annonce, mais je ne le sais pas, évidemment, parce qu'il y a une part d'incertitude. Donc déjà, toutes nos anticipations du futur sont des formes de croyances ordinaires, qui ne sont pas forcément fausses, n'est-ce pas ? Et dans notre vie quotidienne, sans cesse, nous produisons des conjectures, pas forcément de façon pleinement consciente, mais qui nous permettent de nous orienter, d'avoir des interactions avec les autres, et qui sont dans le fond fondées sur des systèmes de négociation intellectuelle avec le monde qui ne sont pas des connaissances, mais qui relèvent plutôt du champ de la croyance. Alors, dans cette conférence, cependant, je vais plutôt vous parler de croyances qui peuvent nous faire sourire dans certains cas, qui sont assez spectaculaires dans leur prétention à décrire le monde et surtout dans la façon qu'elles prétendent décrire le monde. Alors ces croyances, elles relèvent aussi bien des rumeurs, des légendes urbaines, des théories du complot, des idéologies, etc. etc. Il y en a un nombre si grand d'ailleurs que je pense que même si je fais quelquefois des petites bifurcations, j'occuperai la majeure partie de mon temps de chercheur, c'est ce que j'ai déjà fait, à ces objets multifactoriels que sont les croyances. Et en même temps, quand j'ai commencé ma carrière, parce que dès le début de ma carrière, en fait, dès mon mémoire de master, on disait maîtrise à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser aux croyances collectives, et dans ma thèse, et ensuite j'ai poursuivi, donc. Je dois dire qu'au départ, beaucoup de mes collègues regardaient l'objet que j'avais choisi comme objet de passion, intellectuelle avec curiosité. C'est évidemment, ça leur paraissait intéressant, mais c'est vrai que certains des objets que je choisissais étaient un peu exotiques. D'abord, j'ai observé une secte de l'intérieur pendant un an, comme sociologue, donc je pratiquais avec eux la méditation et la course, parce qu'ils couraient. Ils faisaient beaucoup de sport, donc j'ai mouillé la chemise pour la recherche. Et dans cette secte, on croyait par exemple que le gourou était capable de faire léviter des éléphants avec la puissance de sa pensée. Et en même temps, vous voyez, voilà une croyance très spectaculaire. Dont l'affirmation de cette croyance peut nous faire sourire ou rire. Et pourtant, je peux vous garantir que les gens que je fréquentais donc pendant un an ne paraissaient pas du tout fous. Ils ne l'étaient pas, probablement. Il me paraissait même très normal, si ce terme à mettre entre guillemets a une signification. Bref, les interactions que j'avais avec eux n'arrivaient pas à me convaincre qu'ils avaient quelque chose de fondamentalement différent des autres concitoyens, si ce n'est qu'ils étaient rentrés dans un processus qui leur avait fait accepter ce type de croyance très spectaculaire. Alors mes collègues donc, qui regardaient ces objets avec un peu de suspicion, avait aussi cette idée que, dans le fond, c'était un objet qui probablement allait disparaître, peu à peu, à l'horizon des progrès du niveau d'éducation de nos concitoyens. Et c'est vrai que le niveau d'éducation n'a cessé de progresser de façon tout à fait notable, notamment à partir du 19e siècle, de façon très spectaculaire, avec la disponibilité de l'information. On avait de plus en plus accès à l'information, de sorte que le croisement de ces deux variables bien opérer probablement, quand on ne savait pas, mais en tout cas à moyen ou long terme, une disparition de l'empire des croyances. Ça, c'est quelque chose, une croyance précisément, c'est intéressant. C'est du coup, on pourrait dire, une croyance autodestructrice. Le fait de croire que les croyances vont disparaître, étant une croyance, évidemment, son simple énoncé nuit à sa conclusion, mais indépendamment de cette curiosité de l'esprit, j'avais une conviction un peu différente. Et évidemment, maintenant, je vous dis ça aujourd'hui, donc c'est très facile de vous convaincre que les croyances sont un sujet extrêmement contemporain. Mais il faut bien concevoir que à l'époque, donc dans les années 90, on va dire, du 20e siècle, on avait des arguments pour imaginer que, bien sûr, on n'imaginait pas que les croyances disparaîtraient à tout jamais, mais on pensait qu'elles auraient déjà institutionnellement de moins en moins de force, comme les religions par exemple, les idéologies paraissaient en retrait, enfin bref, toutes ces représentations crédules du monde paraissaient devoir reculer. Et ce qu'on imaginait plus ou moins obscurément, c'est que la libéralisation du marché des idées, c'est-à-dire la possibilité finalement librement de s'exprimer, de défendre des modèles intellectuels, et bien que cette concurrence, qui est vraie, était plus grande grâce à une plus grande libéralité politique et religieuse. Il y a eu un temps dans l'histoire des hommes, et c'est encore le vrai aujourd'hui dans certains pays, où il y a des idées que vous n'avez pas le droit de défendre, tout simplement. Nous en France aussi, pour quelques idées, mais elles sont très rares. C'est pas qu'ils peuvent être sanctionnés par la loi si vous les défendez, comme le négationnisme par exemple, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Sinon, habituellement, vous avez le droit de défendre des thèses conspirationnistes, vous ne direz pas, et heureusement, en prison pour cela. Et donc l'idée, c'était que cette libre concurrence sur ce que j'appelle le marché cognitif, disons le marché des idées, des représentations, cette libre concurrence allait favoriser les meilleurs produits du point de vue de la rationalité. Ça, c'est un espoir qui est porté notamment par le siècle des Lumières. Et il suffira finalement d'éduquer les gens, de développer leur esprit, et puis ensuite de rendre accessible l'information pour que le marché fasse un travail de sélection des idées qui serait globalement positif. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est précisément pas celle-ci. Et il n'était pas du tout stupide de croire cela. Il y avait plein de raisons de le croire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est bien l'histoire d'une dérégulation massive du marché de l'information. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de tutelle autoritaire sur ce marché, ou en tout cas, la tutelle autoritaire est de plus en plus impuissante à réguler ce marché. C'est comme ça qu'on devrait le dire. Et pourtant, les produits qui, en tout cas, dans l'état actuel de notre observation, je ne vois pas dans l'avenir, je ne sais pas ce qu'il va en être dans 50 ans. Mais dans l'état actuel, les produits qui s'imposent sont bien en effet les plus robustes. Il y a une forme de sélection darwinienne des idées sur ce marché. les plus robustes, mais non pas du point de vue de la norme de la rationalité, mais comme on va le voir, du point de vue de la satisfaction intellectuelle qu'ils procurent. Et ce n'est pas du tout la même chose, en réalité. Alors, pour comprendre ce qui est en train de nous arriver, il faut remonter, d'une certaine façon, au temps d'avant, au monde d'avant. Avant cette dérégulation du marché de l'information, qui va être évidemment, dont l'outil, le bras armé le plus évident, est l'apparition des mondes numériques et d'Internet, grosso modo. Je vais expliquer pourquoi ça consiste globalement en une dérégulation du marché de l'information. Mais avant cela, on s'intéressait quand même aux croyances de toutes sortes, en particulier parce qu'on avait vu, c'était pas la première fois, mais on l'a particulièrement constaté lors de la Deuxième Guerre mondiale, que la rumeur, l'intoxication du camp ennemi pouvait être une arme de guerre absolument redoutable, dont on a beaucoup usé. Et simplement, il n'y avait pas encore de science véritablement de cela. Et donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a financé des travaux pour en savoir plus, par exemple, sur ces propositions intellectuelles qui passaient en quelque sorte sur le marché clandestin des idées. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être défendus dans les journaux, à la radio, à la télévision de façon officielle. Parce qu'à ce moment-là, le marché public de l'information, il était régulé. Il était régulé, par exemple, par le pouvoir politique. Pendant longtemps, en France, il n'y avait que des chaînes publiques qui étaient étatiques. Il y avait l'ORTF, et même, à la limite, l'éditorialisation du journal de 20h était un peu dictée par le ministère de la communication. Et donc, évidemment, le marché de l'information était un peu sous tutelle étatique. Bon. Ensuite, sont apparues, vous avez bien vu, des chaînes privées, etc. Une plus grande concurrence et donc une plus grande offre sur ce marché. Donc la pression concurrentielle sur ce marché, elle a beaucoup augmenté. Mais donc pendant longtemps, ceux qui avaient la possibilité d'émettre un point de vue dans l'espace public étaient ceux qu'on appelait en théorie de la communication les gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens du seuil. Qui étaient-ils ? Les journalistes, par exemple, les universitaires, comme moi, les hommes politiques, les patrons de syndicats, d'associations, enfin, toutes sortes de personnes, il y en avait beaucoup, mais pas tout le monde. Il y avait des gens qui étaient considérés comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. Mais est-ce que les autres ne disaient jamais rien ? Bien sûr que si. Les autres, nous tous, nous parlions dans les bars, dans les repas de famille, dans les cours d'école, autour de la machine à café dans une entreprise, que sais-je. Et on peut dire que ce marché cognitif existait, mais il ne perçait que très rarement dans l'espace public à proprement parler. Pas, par exemple, une rumeur concernant un maire. Quand vous étudiez les légendes urbaines, il y a les travaux de Jean-Bruno Renard, par exemple, ou Véronique Campion-Vincent. On y apprend, en lisant ces travaux sur les rumeurs et les légendes urbaines, qu'il y a toujours plus ou moins eu des rumeurs de réseaux pédophiliques autour des maires des grandes villes, des notables, etc. etc. Donc ça, c'est des rumeurs qu'on retrouve partout. Pas à moi de dire si elles sont fausses ou justes, mais vous imaginez bien qu'un journaliste local va pas permettre à cette rumeur de faire les premiers titres des journaux sans faire une enquête considérable. Donc vous pouvez pas, vous pouviez l'évoquer dans un repas entre amis, pareil que le maire, je sais pas quoi, fait des balais bleus, des balais roses, enfin il y avait ces histoires comme ça. Mais évidemment, ces informations-là, donc elles ne perçaient pas sur le marché public de l'information. Et donc, comment se diffusait cette information ? La plupart du temps, elle se diffusait par le bouche-oreille, tout simplement. Et ce média, parce que le bouche-oreille, c'est un média particulier, a des caractéristiques qui faisaient que certaines formes de crédulité ne pouvaient pas rencontrer beaucoup de succès sur le marché cognitif, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les premiers travaux qui ont été faits, donc, c'est à la fin des années 40, financés par l'armée américaine, un travaux de deux psychologues sociaux, Alport et Postman. Et Alport et Postman, comment ils ont procédé ? Ils se sont dit, parce que quand on entend parler d'une rumeur ou d'une légende urbaine, généralement, on ne connaît pas sa source à ce moment-là. Si vous en entendez parler, c'est qu'elle est déjà constituée. Elle a déjà fait son chemin dans la société, puisque en tant que sociologue, vous êtes vous-même un acteur social. Vous entendez parler en tant qu'acteur social, et en tant que sociologue, vous dites, ce serait bien que je travaille là-dessus. Sauf que vous ne pouvez rien connaître de son processus de constitution. Alors, ils ont essayé de simuler, d'un point de vue expérimental, le processus de diffusion de l'information par le bouche-oreille. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils montraient des images complexes à un individu qui le décrivait à un deuxième individu qui n'avait pas vu l'image. Le deuxième le décrivait à un troisième qui n'avait pas vu l'image non plus, etc., etc. Bon, on a tous joué à ça un jour dans notre vie. Et donc, ce processus de bouche-oreille, déjà, indiquait que les images n'avaient plus grand-chose à voir avec la source d'origine au bout de 6 ou 7 intermédiaires. Donc, vous voyez, une information, ça se déforme vite. Elle se déforme pas n'importe comment. Alors, je vais pour vous expliquer comment ça se passe. Je montre un de ces cartons qu'utilisait Alport et Postman. Donc, vous voyez, c'est une des images, c'est un dessin. C'est une image complexe parce qu'il y a beaucoup de personnages. En fait, il y en a 8 avec le bébé. On ne sait pas exactement où ça se passe, c'est ambigu, mais probablement un wagon de métro ou de train, peut-être de métro comme il y a des gens debout, enfin, on ne sait pas très bien. Il y a deux personnages un peu sur l'avant-scène, un blanc et un noir, et vous voyez que le blanc tient dans sa main gauche un objet qui est difficile à identifier aussi, peut-être ça pourrait être un stylo ou un rasoir à main comme ça. Bon. Et alors on présente donc cette image à une personne, qui la décrit à une deuxième personne, etc. Et ce qu'on observe, dans toutes les images d'ailleurs, c'est premièrement une simplification extrême de l'image. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'intermédiaires, il n'y a plus que deux personnages sur l'image. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que l'une des conditions de survie d'une proposition intellectuelle par le bouche à oreille, c'est qu'elle soit brève, courte. Sinon, on ne peut pas mémoriser tout. Donc en fait, la variable qui va permettre la survie d'une proposition intellectuelle, c'est sa possibilité d'être mémorisée. Et pour être mémorisée, elle pourra compter sur la simplification et sur la stéréotypification du message. Parce que le stéréotype va être mémorisé particulièrement facilement, parce qu'il s'emboîte bien avec nos représentations préalables. Alors ça donne quoi là ? Ben, ça donne donc deux personnages, le reste a disparu, le contexte est quasiment pas évoqué, et la majeure partie des gens qui ont participé à l'expérience disent que ce n'est pas le blanc, mais le noir qui tient le rasoir et qui menace le blanc. Oui. Vous voyez comment il y a une inversion tout à coup. On est dans les États-Unis des années 50, évidemment. Bien sûr qu'il y a quelque chose de crypto-raciste, voire d'explicitement raciste dans cette interprétation, mais c'est simplement parce que l'esprit va essayer de remplir les trous que va laisser la description dans l'interlocution par le bouche-à-oreille. Donc de cela, on doit retenir trois choses fondamentales. Un, simplification du message. C'est-à-dire que les propositions de la crédulité qui se déplacent par le bouche-à-oreille, comme les rumeurs, elles sont souvent extrêmement simples et donc peu argumentées. Souvenez-vous, par exemple, peut-être, si vous vous en souvenez, enfin, moi, quand j'étais enfant, on disait que la marque de cigarette Marlboro, si vous voyez le logo, était à coquiner avec le Ku Klux Klan. Et c'était quoi je suis content que certains d'entre vous, au moins, se rappellent de cette rumeur. C'est totalement faux, bien sûr. Mais le seul argument, enfin, à ma connaissance, le seul argument qui était évoqué, c'était le fait qu'il y avait vaguement trois cas rouges, en fait, à cause du logo de la marque, si on regardait comme ça de côté. Bon, voyez bien que le niveau d'argumentation de cette rumeur est si faible qu'on va la raconter, mais en souriant un peu comme une histoire drôle. On ne va pas se monter en association, là, pour lutter contre le Ku Klux Klan et l'influence du Ku Klux Klan sur la marque de cigarettes Marlboro. On ne va pas non plus, si on est fumeur à l'époque, arrêter de fumer des Marlboro si c'est notre marque préférée. Bref, ça n'a pas de conséquences, ni politiques, ni morales, ni d'indignation véritable. C'est des histoires dans lesquelles on croit sans y croire vraiment, et peut-être que Sébastien Diéguez, justement, évoquera ce type d'adhésion crédule, qu'on nomme aussi des proto-croyances, mais ce n'est pas le sujet de ma conférence, donc j'en dirai pas plus. Bon, vous voyez, en tout cas, on peut prédire sans doute de cela de faibles performances sur le marché cognitif de ce genre de propositions parce qu'elles sont peu argumentées, donc peu convaincantes. Mais on se les raconte plutôt pour attirer l'attention de l'autre parce que souvent leur fin est spectaculaire. Elles sont souvent un peu morales comme ça, c'est légendes urbaines. Le deuxième point qui est tout à fait essentiel, c'est qu'elles vont se développer lentement dans l'espace public. Parce que le bouche à oreille, c'est beaucoup plus lent comme média, que la radio, la télévision, je ne parle même pas d'Internet, etc. Ou même qu'un journal qui va pouvoir toucher, un journal imprimé un million d'exemplaires, il va toucher un million de personnes. Vous voyez, votre humeur, elle va toucher une personne, puis une autre, etc. Puis en plus, elle va se déformer, encore une fois, votre histoire selon des principes de stéréotypes, de simplification. Et donc, comme les rumeurs, ces légendes urbaines, etc., se développent très lentement, elles ne peuvent porter que sur des sujets atemporels ou alors qui restent très longtemps dans l'actualité. Par exemple, des théories du complot, je suppose, je ne peux pas le prouver, qu'il y en a toujours eu autant, paradoxalement. Mais simplement, elles ne survivaient pas. Par exemple, s'il y avait tout à coup, je ne sais pas moi, le PDG d'une grande entreprise qui avait un accident d'hélicoptère, je prends cet exemple parce que c'est arrivé, le PDG Total, par exemple, a eu un accident d'hélicoptère, et ça a donné lieu sur Internet à des théories du complot. Je suppose que si c'était arrivé 40 ans auparavant, avant Internet, les gens, parler de cette information, certaines personnes dans les bistrots diraient peut-être « Ah, oh, c'est bizarre quand même cette histoire, etc. » Voilà. Donc en fait, c'est le début d'une théorie du complot. À qui profite le crime? Tiens, c'est bizarre, peut-être on a voulu l'éliminer, puis c'était dans un pays étranger, etc. Bon, bref, une proto-théorie du complot serait née, sauf que, développée par le bouche-à-oreille, elle va mettre des mois à se diffuser sur un territoire, de sorte que quand elle arrivera à vous, ça ne vous intéressera plus du tout. Vous ne vous souviendrez même plus que le PDG de telle entreprise est mort, ou, ah oui, vaguement, mais... Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'encore une fois, un produit cognitif pour survivre a besoin d'être mémorisé, mais il a besoin aussi de susciter l'intérêt. Parce que si vous, vous ne trouvez pas l'histoire intéressante, vous ne la raconterez pas, et donc il meurt. Il disparaît de l'arborescence. Ce qui fait que, oui, il y a toujours eu des théories du complot, mais elles portaient toujours sur des faits historiques massifs qui continuaient à nous intéresser des dizaines d'années après qu'ils se soient produits. Pearl Harbor, par exemple, l'assassinat de Kennedy, est-ce qu'on a marché sur la Lune ou pas, et est-ce que Elvis Presley est vraiment mort, est-ce qu'il ne vit pas sur une île avec James Dean, par exemple, qui lui-même n'est pas mort non plus, Marilyn Monroe a-t-elle été plutôt assassinée, Bruce Lee, etc., etc. Donc vous voyez, ce sont des personnalités qui ont une notoriété massive, qui sont un peu des mythes collectifs, comme ça, et qui, leur notoriété est si importante que n'importe quelle histoire qu'on raconte continue à nous intéresser. Et donc ça, ça a assuré la survie d'un certain nombre de propositions crédules. Mais voyez, toutes ces propositions, elles étaient circonscrites en quelque sorte, à des espaces souvent d'ailleurs de radicalité, ou à des objets massifs du point de vue social. Or, les caractéristiques de ces produits, elles ont complètement changé. Et j'entame maintenant, après cette longue introduction, le vrai sujet de cette conférence, c'est-à-dire ce qui se passe sur le marché contemporain. Et vous allez voir, les caractéristiques du marché cognitif contemporain, elles vont complètement bouleverser le caractère concurrentiel de ces propositions crédules. Elles vont lui assurer un succès qui est paradoxal, puisque nous sommes aussi, c'est vrai, dans les sociétés où le niveau de l'éducation est très fort, où la disponibilité de l'information est très forte. Et du coup, d'ailleurs, je vais revenir sur la disponibilité de l'information, tout simplement, ça c'est un fait majeur de notre époque, jamais nous n'avons eu autant d'informations disponibles, mais de très très loin. C'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité. Au début des années 2000, on a produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on a produit 150 exabits de données sur la Terre, ce qui était déjà considérable. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Donc il y a une accélération géométrique de la production de l'information. Et dans les deux dernières années qui viennent de s'écouler, on a produit 90% de l'information disponible sur la Terre. Vous voyez ? Tout ce qu'on avait produit avant, c'est 10%. Donc c'est totalement inimaginable, évidemment. Et ça crée une offre cognitive avec un niveau de pression concurrentielle, vous imaginez bien, qui n'a jamais été atteint non plus dans l'histoire de l'humanité. La vraie question, c'est donc non pas qu'il y ait une offre, parce qu'avant l'information était rare, la vraie question, c'est de trouver des cerveaux disponibles pour acheter cette information en quelque sorte, cognitivement, enfin pour l'écouter. Donc le vrai combat, ça va être de capter l'attention de nos concitoyens sur ce marché ultra concurrentiel. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons de plus en plus de disponibilité mentale. C'est quoi la disponibilité mentale ? Sur une journée, c'est le temps qui vous reste quand vous avez retiré, le temps biologique déjà, c'est-à-dire le temps du sommeil, quand vous allez aux toilettes, le temps de la toilette aussi, et puis le temps de travail, bien sûr. Prenez le temps de travail, par exemple, il occupait 40% de notre vie au 19e siècle, il n'occupe plus aujourd'hui que 11% de notre vie. Les congés payés, l'augmentation de la productivité, enfin voilà, des combats syndicaux aussi, enfin toutes sortes de choses qui se sont mêlées à la fois des progrès technologiques et aussi des progrès en termes de droit du travail qui ont abouti à ça. C'est-à-dire qu'entre le 19e siècle et aujourd'hui, alors évidemment, il y a des variables aussi démographiques, nous ne sommes plus nombreux. Si on essaie de mesurer la taille de notre cerveau collectif disponible, il est 8 fois plus gros. Voilà. C'est une façon de le dire, bien entendu. Ce n'est pas très étonnant. C'est pour ça qu'on a parlé de la société des loisirs, etc. Seulement, la vraie question, c'est formidable d'avoir du temps de cerveau qui se dégage, de la disponibilité mentale. Mais pour en faire quoi ? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps de cerveau disponible, pour reprendre cette expression d'un ancien PDG de TF1 ? Eh bien, parallèlement, ce que nous en faisons ce précieux trésor d'humanité, parce que c'est un des plus précieux trésors d'humanité, cette disponibilité mentale. Hein, c'est là que vous allez avoir de grandes symphonies, des œuvres littéraires, des découvertes scientifiques, enfin, etc. Mais aussi du temps à regarder des vidéos de chats. N'est-ce pas ? Et donc, qu'est-ce qui va l'emporter dans tout ça ? Parce que parallèlement à ça, effectivement, les écrans, sous toutes leurs formes, eh bien, sont devenus des propositions absolument envahissantes, pour le meilleur et pour le pire. Là, vous voyez, j'ai arrêté ma courbe, c'est le nombre d'internautes dans le monde en 2016. Et vous voyez que la courbe est plutôt géométrique, ce qui est assez rare en fait dans les cas d'innovation technologique. La plupart du temps, les courbes sont en S, elles sont sigmoïdes. Mais bon, je ne rentre pas dans ce détail-là. On aura un temps d'échange, de toute façon, ensuite. Et par contre, ces internautes, c'est des gens qui, comme vous et moi, on est tous internautes, je suppose, on a tous un objet dans notre poche qui nous permet d'accéder à Internet ou à un ordinateur, une tablette, presque tous. Ça s'est développé de la même façon, d'ailleurs, pour les téléphones portables. C'est exactement la même courbe. Elle suit juste avec quelques années de retard, mais elle a exactement cette forme. Donc, c'est des innovations technologiques qui envahissent massivement l'espace social. Bon. Et alors, c'est un premier intérêt par rapport à notre sujet, c'est que, contrairement à avant, vous vous rappelez, les gatekeepers, c'est les gens qui avaient le droit de publier une information, quelle qu'elle soit, sur les marchés publics, ça a complètement volé en éclats. Nous sommes tous des gatekeepers aujourd'hui. Nous avons tous la possibilité de verser notre point de vue sur le monde dans l'espace public ou semi-public, par exemple des réseaux sociaux, des commentaires sur un article de presse, sur un blog, c'est plus très à la mode, mais ça l'était. Il y a plein de formes d'expression. Sur une chaîne YouTube, que sais-je. Mais au moins sur les réseaux sociaux, ça c'est évident. Il y a autant d'éditorialistes en France que de comptes Facebook, Twitter, etc. Instagram, etc., etc. Et c'est pas forcément mal, d'ailleurs. C'est plutôt bien dans l'idée qu'on puisse tous donner notre point de vue. Je vois pas pourquoi. Certains auraient le droit, d'autres pas. Et d'ailleurs, ça se voit à cette image qui est assez connue, mais que j'aime beaucoup. C'est la même salle entre 2005 et 2013. Il s'est passé un petit quelque chose, vous voyez, qui est proprement révolutionnaire. Bon. Alors, évidemment, nous croulons donc, c'est ça le problème, sous l'information. Il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles. Et encore une fois, le problème n'est pas de trouver l'information, c'est plutôt de trouver l'information qui est bonne, qui va nous intéresser. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une forme de cacophonie informationnelle, si vous me permettez cette métaphore. Et je vais filer cette métaphore pour vous expliquer le problème, parce que c'est précisément la métaphore qui est adéquate pour vous parler de ce qu'on appelle l'effet cocktail party. Qu'est-ce que c'est l'effet cocktail party ? Vous avez tous participé à un cocktail ou à une soirée, j'espère, ce serait triste, de n'être jamais allé dans une fête avec des amis. Et vous avez remarqué ce fait, quand on est plus de 10-15 debout, là, on a son verre, un peu comme dans cette image. Et généralement, on ne parle pas avec tout le monde en même temps, c'est impossible. Donc les conversations se subdivisent et on est concentré sur la conversation de la personne qui est en face de nous. D'accord ? Donc c'est ça le cocktail party. Qu'est-ce que c'est l'effet cocktail party ? C'est que vous pensez que vous n'entendez pas les autres conversations. Ce qui est partiellement vrai, mais ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est deux psychoacousticiens qui l'ont montré, c'est que certains mots prononcés quelque part dans la soirée ont cette capacité magique d'hameçonner votre attention malgré vous. Par exemple, si quelqu'un dans la soirée, vous êtes en train de parler, on parle tous les deux, madame, et puis tout à coup, quelqu'un dit mon prénom, Gérald. Il est probable que je m'arrête, enfin en tout cas que vous voyez mon regard, clac clac, aller pointer sur la personne. Peut-être que j'aurais pas l'impolitesse de vouloir absolument savoir ce que cette personne dit. Puis il y a d'autres Gérald, peut-être il parle pas de moi, ou si il prononce un mot qui relève de mon identité, sociologue. Alors vous avez dit que tout à l'heure j'étais professeur à Paris 7, Paris Diderot. Enfin je suis professeur à la Sorbonne depuis 2 ans, mais c'est pas grave. Donc même s'il dit Paris Diderot, je vais quand même avoir mon attention attirée parce que j'ai été professeur 10 ans à Paris Diderot ou Sorbonne. Donc, en fait c'est ce qu'on appelle des informations égocentrées. C'est-à-dire toute information qui relève de votre identité est de nature à attirer votre attention. On aime bien qu'on parle de nous. En tout cas il y a quelque chose dans notre cerveau quand on parle de nous ou d'un élément de notre identité qui nous dit « ça vaudrait peut-être le coup que t'écoutes ». Mais on ne le décide pas. Ça se décide en deçà de notre volonté. Et il y a d'autres mots qui sont capables d'hameçonner notre attention. C'est par exemple si je prononce le mot « sexe ». Ça nous intéresse, le sexe. Ou n'importe quel élément relevant du champ lexical de la sexualité. Ou un élément de conflictualité. Par exemple, si quelqu'un dit « connard », ou d'autres mots encore plus, je ne vais pas prononcer dans cet auguste lieu, les termes qui relèvent de la conflictualité ou de la peur sont de nature à hameçonner notre attention. Ça veut dire que dans cette cacophonie d'informations, pour filer la métaphore, il y a certaines informations, donc avec cette pression concurrentielle qui est très forte, qui vont avoir le pouvoir d'hameçonner notre attention un peu malgré nous, en quelque sorte. Par exemple, je vous ai parlé de la sexualité. Sachez que les premières vidéos regardées dans le monde, dans tous les pays et de très loin, ce n'est pas les vidéos de chats. Elles arrivent en deuxième position. Et là, mes compétences de sociologue s'arrêtent. Je ne sais pas pourquoi. Mais les premières vidéos, ce sont des vidéos pornographiques. Y compris dans les pays où la moralité religieuse est forte, par exemple, et où on en condamne l'usage. Ce n'est pas toujours les mêmes sites, ce n'est pas toujours Pornhub, etc. Pornhub, c'est très bien, parce qu'il y a des statistiques. Il y a des pages de statistiques de Pornhub qui sont absolument passionnantes. Ça, vous pouvez savoir dans quel pays on a plus cette obsession, tel type, parce qu'il y a des variables culturelles, hein. Il y a des préférences fantasmagoriques. Par contre, le temps d'usage est toujours à peu près le même. Pas plus d'une dizaine de minutes. C'est pas ce qu'on fait avec ces dizaines de minutes. c'est très intéressant parce que vous voyez bien que l'offre de pornographie, elle est donc dominante sur le marché des images vidéo, mais en fait, elle l'a souvent été. Dès qu'un marché se dérégule, en fait, il fait apparaître certaines de nos compulsions obsessionnelles. C'était le cas du Minitel, qui était déjà un pré-internet. Hein. Minitel, c'était formidable, ça nous permet de connecter, etc. Bon, 50%, plus de 50% en fait, de l'économie du Minitel est allée vers le Minitel rose. Très vite. Je n'ai pas de jugement moral par rapport à ça. Mais bien sûr, c'est exactement le genre d'information qu'on va taire en privé, mais qui va se révéler publiquement par les traces que nous laissons, les traces numériques que nous laissons. Mais sinon, je sais bien qu'ici, personne ne regarde de la pornographie. C'est dehors, ce qui le font les autres. Pression concurrentielle, pour survivre, en fait, les offreurs d'informations, et survivre, ça peut être économiquement, pour les journalistes notamment, et ça impacte pleinement, je vais vous en reparler, le travail des journalistes, mais ça peut être aussi simplement symboliquement. Quelqu'un qui tient un blog, il a envie qu'il y ait des gens qui viennent. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube, il a envie qu'on la regarde. Quand vous faites un post sur les réseaux sociaux, vous aimez bien être liké et repartagé. Vous ne faites pas un post en espérant que personne ne verra votre post. Sinon, ce n'est pas la peine de l'écrire, quoi, a priori. Donc vous cherchez, nous cherchons tous, ces humains, à capter l'attention des autres. Nous sommes donc tous un peu en concurrence. Et évidemment, quand la pression concurrentielle est très forte, la tentation peut être forte aussi de faire une offre qui va dans le sens de la demande. L'offre cognitive, et c'est l'histoire qui est en train de nous arriver, va de plus en plus s'indexer sur la demande pour pouvoir survivre. Alors la demande, je vous l'ai dit, par exemple la sexualité, mais aussi la conflictualité. Par exemple, nous sommes, et il y a un dispositif en nous qui est capable de reconnaître statistiquement plus facilement un visage en colère. Ça, c'est, par exemple, si je vous montre plein de visages avec des expressions, disons, émotionnelles différentes, le premier statistiquement, que nous allons voir, c'est l'image du visage en colère. Là, vous avez les références, si ça vous intéresse, hein, l'article scientifique dont je dis ça. Donc, c'est profondément câblé, si vous voulez, dans notre développement évolutionnaire, que d'avoir une attention pour l'information fondée sur la conflictualité. Ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes des singes nus, comme dirait Desmond Morris. Hein. Donc nous fonctionnons, et c'est ce qui a fait la survie de l'humanité, en cohorte. Hein, c'est-à-dire dont nous partageons l'information. Donc une information qui relève d'un élément de conflictualité quelque part dans la cohorte pourrait nous concerner immédiatement, par un effet de coalition. Et donc l'information conflictuelle est quelque chose que notre cerveau nous commande de prendre en compte. Et ça va avoir beaucoup d'importance. Parce qu'en effet, quel type d'information on va chercher à propos de personnalités publiques? Qu'est-ce qui va nous intéresser le plus? Alors là, on peut se fonder sur un algorithme qui nous permet de regarder le volume de recherche sur Google, parce que Google, c'est le moteur qui est presque monopolistique en France. Hein. 95% des recherches sur un moteur de recherche en France sont faites sur Google, et dans beaucoup de pays. Donc on va regarder qu'est-ce qui intéresse, par exemple, pour j'ai regardé trois personnalités. Personnalité comme Booba. Booba, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Donc il a sorti, avec un grand succès, il a sorti des albums qui ont été albums de diamants. Est-ce que c'est à la sortie d'un album, par exemple, que les gens cherchent son nom? Tiens, j'ai entendu parler de lui à la radio. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux écouter un morceau de musique? Etc. Eh bien, pas du tout. En fait, vous voyez, le pic de recherche collective autour de lui, c'est lorsqu'il y a eu une bagarre avec un autre rappeur qui s'appelle Caris dans un aéroport de Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, et ben c'est très intéressant que vous vous en souveniez. Parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. Et moi aussi, bien sûr, je m'en souviens. Et même, je vais vous dire, je suis allé voir les vidéos. J'avais envie de voir comment ça s'était passé, quoi. Et je les ai peut-être regardées plusieurs fois, d'ailleurs. Donc, je ne suis pas différent des autres. Hein. Je veux dire, je donne la leçon à personne. Mais vous voyez bien quelque chose qui hameçonne. Alors que c'est totalement trivial. C'est juste deux abrutis qui se battent avec leurs copains pour une raison totalement triviale. Tout le monde le sait. Mais quand même, notre cerveau a laissé une petite place dans notre mémoire pour ça. Alors que nous avons oublié des informations peut-être, a priori, plus intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles relèvent de la conflictualité. Prenons, alors vous allez me dire, Booba, d'accord, mais c'est un rappeur, il y a des clashs, c'est normal. Prenons un homme politique, Manuel Valls, qui était quand même Premier ministre au moment des attentats à Paris. Donc bon, quoi qu'on pense de lui, c'est en bien ou en mal, il a été Premier ministre à un moment dramatiquement historique de notre pays. Est-ce que c'est ça qu'on a retenu, ces prises de position, etc.? Ben en fait, non, le pic le plus important de recherche concernant Manuel Valls, c'est quand il a reçu une gifle au moment des primaires du Parti Socialiste, je crois. Prenons, je ne sais pas, un intellectuel, Alain Finkielkraut. Pareil, quoi qu'on pense de lui, ben il a une œuvre. Est-ce que c'est à la sortie, l'occasion d'une sortie d'un de ses livres, etc.? Non, les deux pics tout à fait notable de recherche. Donc c'est nous, hein. C'est nous qui faisons ces recherches à ce moment-là. Quand est-ce que nous recherchons Alain Finkielkraut? Ben massivement, deux fois, quand il s'est fait expulser pratiquement manu militari de Nuit Debout, et une autre fois quand il s'est fait agresser verbalement au moment des Gilets jaunes. Bon, ben voilà, c'est quelques exemples pour vous dire que la conflictualité attire notre attention. Donc, il y a un dispositif dans notre cerveau, mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est la rencontre du fonctionnement ancestral de notre cerveau et de l'hypermodernité, notamment des réseaux sociaux et du monde numérique. Parce que cette tendance, elle est encouragée par les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, pendant longtemps, a donné une prime de visibilité aux messages, aux posts, qui étaient assortis de l'émoticône colère. Vous voyez, les petits bonhommes jaunes, il y en a qui pleurent, qui sourient, il y en a un qui est en colère. Et bien, quand vous mettiez un émoticône de colère, l'algorithme de Facebook vous rendait 5 fois plus visible. D'accord? Pourquoi? C'est pas parce qu'ils veulent nous rendre fous, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas qu'on fasse la guerre de tous contre tous. Non, c'est pas la question. Le but de Facebook, c'est que vous restiez le plus longtemps possible chez Facebook. Ou sur YouTube, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils vont convertir votre temps de cerveau disponible en capital économique par le truchement des publicités. Comme vous savez, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. hein, dit le proverbe. Et c'est tout à fait exact, mais c'est pas grave, c'est un troc qui est librement consenti. En effet, Facebook, c'est gratuit, et donc ben, vous passez du temps sur Facebook, et il y a des plages de publicité à droite, etc., vous voyez bien. Eh bien, c'est comme ça que Facebook se rémunère, évidemment. Sauf qu'il essaye de vous saisir par les aspects les plus obscurs de votre cerveau, en quelque sorte, pour que vous restiez le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle les dark patterns, hein, les cadres noirs que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression que le réseau est tout à fait normal, mais en fait, on va vous exposer préférentiellement à des choses qui relèvent de l'effet cocktail party, en fait. Alors, par exemple, parce que notre cerveau, il a des attractions, mais par exemple, notre cerveau, je vous ai parlé de la peur, par exemple, il est très attiré par les faibles probabilités de risque. Quand il y a des faibles risques de quelque chose, ben, tout à coup, nous allons multiplier ces faibles probabilités intuitivement par 10 ou 15. C'est ce que montre cette courbe, ce qu'on appelle la courbe de Prelec. Donc vous voyez qu'en abscisse, vous avez les probabilités objectives et en ordonnée, la représentation que sont faites ces probabilités. Si on était totalement rationnel, ce serait la droite en pointillé, la droite affine, là, qui représenterait 0,1, on verrait 0,1, 10% de chance, on dirait 10%, 20% de chance, 20%. Mais en fait, plus on se rapproche de faibles probabilités, plus on a tendance à surévaluer les probabilités avec un coefficient de 10 ou 15. Pourquoi est-ce que notre cerveau a en quelque sorte ce handicap? C'est intéressant. Alors on ne sait pas, c'est une conjecture, mais plusieurs psychologues évolutionnistes considèrent que c'est parce que ça probablement constitue un avantage sélectionniste en un temps où l'environnement est extrêmement hostile. C'est-à-dire si vous entendez, il y a des centaines de milliers d'années, un buisson bouger, vous pouvez vous dire c'est le vent, c'est probablement le vent, il n'y a peut-être que 5% de chance que ça soit un serpent ou un prédateur, ou un autre homme d'ailleurs, prédateur de moi. Donc, en toute logique, 95%, vous n'allez pas détaler. Seulement, ceux qui ont fait ce pari bien, sont quelquefois morts, et les peureux ont survécu. Ce qui fait que nous sommes plutôt les descendants, si vous voulez, des craintifs que des téméraires. Et il y a toutes sortes de dispositifs donc, dans notre cerveau qui est particulièrement intéressé à des questions de peur, etc., etc. Et ça ne se voyait pas si bien aussi longtemps qu'il n'y avait pas cette dérégulation massive du marché de l'information. Parce que du coup, les offreurs d'informations, y compris les journalistes, qui pour survivre, il ne faut pas l'oublier, ils ont perdu une grande partie de leur manne publicitaire à cause de Facebook et des réseaux sociaux. Il y a une énorme absorption. 70% de la manne publicitaire aux États-Unis est passée dans les mains de Google et Facebook. Donc évidemment, les journalistes disparaissent. Il y a de moins en moins de postes de journalistes qui sont prévus. Certains d'entre eux sont même remplacés par des intelligences artificielles. Hein. C'est déjà là, c'est notre présent. C'est maintenant. Et ou alors ils vont écrire une partie de ces articles, les IA, les larges modèles de langage. Là, et ensuite, les journalistes vont peut-être corriger un peu à la marge. Mais donc, il va y avoir de moins en moins. Et pour survivre, ils vont être obligés de faire des propositions qui vont dans le sens de nos attentes. C'est tellement vrai qu'il y a une étude publiée dans PLOS ONE qui a montré que sur les 40 dernières années, aux États-Unis, les journaux aussi bien démocrates que républicains, donc ça n'a rien à voir avec le sentiment politique, ont fait monter statistiquement dans la titraille, et ils ont analysé, je crois, plus de 400 000 titres, ils ont fait monter statistiquement toutes ce qu'on appelle les passions tristes. La colère, la peur, le dégoût, etc., etc. Autant d'éléments qui nous intéressent. Alors évidemment, tout cela ne relève pas forcément de la crédulité, mais voilà. La crédulité, elle profite aussi à plein de cette dérégulation de marché de l'information. Et on en a pris conscience. Alors moi, j'ai publié « La démocratie des crédules » en 2013. Grosso modo, la science mondiale s'est intéressée à cela. On le sait parce qu'on a une plateforme qui s'appelle le Web of Science, donc vous pouvez faire des recherches avec des mots-clés. Et donc les mots-clés relatifs aux fausses informations, ils commencent à émerger très fortement à partir de 2016. Voilà. En 2018, paraît dans la revue Science cet article « All Lies Spread », comment le mensonge se diffuse, et qui montre que sur Twitter, les fausses informations se diffusent 6 fois plus profondément que les vraies informations. Ce qui veut dire qu'il y a une asymétrie concurrentielle. Le faux, en fait, profite dans certaines circonstances de cette dérégulation du marché de l'information, et non pas, rappelez-vous comme on l'espérait, comme on le croyait, le marché va faire bien les choses, il va mettre en avant les produits les plus robustes du point de vue de la rationalité. Non. Ce qui se produit, c'est que, en tout cas sur toute une série de sujets, le marché va produire des propositions robustes, mais du point de vue de la satisfaction intellectuelle que ça nous procure. du point de vue des caractéristiques de la demande. Mais il faut expliquer un certain nombre de choses. Ça ne se produit pas seulement comme ça, un peu par magie. Il y a des acteurs derrière ça. Des acteurs qui sont politisés, idéologisés, qui ont un intérêt. Et un des grands résultats des sciences sociales contemporaines sur ces questions, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les super spreaders ou les super users, c'est-à-dire des individus qui vont s'exprimer beaucoup plus que les autres. On a parlé pour Internet, on disait tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle, chacun peut s'exprimer. Certains collègues, comme Dominique Cardon, ont parlé de démocratisation de la démocratie. C'est vrai, puisque chacun peut parler plus facilement, sauf que c'est une drôle de démocratie, parce que c'est une démocratie dans laquelle certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et les voici, les super spreaders. Songez en fait que 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Donc vous voyez cette asymétrie. Et qui sont-ils, ces super spreaders? Eh bien voilà le problème, c'est que, c'est assez logique, ces super diffuseurs sont aussi ceux sur le marché qui sont les plus motivés à diffuser leur information. Et les plus motivés, ben, c'est généralement les plus radicaux. Radical, ça ne veut pas dire qu'on a tort, hein. C'est pas forcément un marqueur de fausseté, mais c'est pas non plus un indicateur absolu de vérité. Et parmi ceux qui sont très motivés, ben, par exemple, je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples, mais je vais passer très vite. Par exemple, les anti-vaccins. Les vrais anti-vaccins militants représentent très peu de choses, en fait. Il ne faut pas confondre la méfiance vaccinale avec la militance anti-vaccin. Par exemple, pour fonder une page Facebook anti-vaccin, il faut être assez motivé. Ben, voilà cette étude américaine, vous avez les références, qui date de 2019, donc avant la Covid. C'est important, parce que la Covid a amplifié un certain nombre de choses. Donc vous avez en rouge les pages Facebook anti-vaccin, en bleu les pages Facebook pro-vaccin, sachant qu'en réalité, les anti-vaccins sont bien moins nombreux que les pro-vaccins, et bien pourtant, ils ont plus de pages Facebook. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, c'est qu'ils sont aussi beaucoup plus prosélytes. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher sur les pages vertes, qui sont des pages neutres, un certain nombre de personnes. Comme ils sont plus motivés, ils vont vendre ces produits. Donc la crédulité, elle profite des règles du marché, mais elle a en plus de bonnes équipes de VRP pour se déplacer. Et nous, ben nous, on laisse faire. On laisse faire parce que vous allez le comprendre, il y a beaucoup de coûts à prendre, et il y a un investissement en temps qu'on n'a pas envie de produire. Et comme le disait John Stuart Mill, le mal n'a besoin de rien d'autre pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison. Voilà. Donc nous les laissons faire. Et en plus, l'information va de plus en plus vite. Je vous disais, le bouche-oreille ralentissait ses productions d'informations, mais aujourd'hui, ben regardez, ça c'est les théories du complot différentes. Qui ont émergé, ben, par exemple, au moment de l'assassinat de Kennedy ou des attentats du 11 septembre, il a fallu attendre 27 jours pour voir apparaître une théorie du complot. Aujourd'hui, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo, c'est 0 jour, tout simplement. En général, au bout d'une heure, à peine, il y a une apparition de théorie du complot. Et là, on observe par ailleurs un déluge d'arguments. C'est ce que j'ai appelé des millefeuilles argumentatifs. Les millefeuilles argumentatifs, et là, on n'est plus du tout donc, dans les vieilles conditions, rappelez-vous, où comme ces produits se déplaçaient par le bouche-oreille, ils étaient faiblement argumentés, et donc assez peu convaincants. Au contraire, la numérisation de cette crédulité, elle permet à chacun de participer, en essayant de détecter des anomalies, en disant « tiens, c'est bizarre sur cette photo, regardez, etc. » Alors j'ai travaillé spécifiquement sur les attentats de Charlie Hebdo, où il y a eu beaucoup de théories du complot. Et vous voyez, le 7 janvier, il y a déjà 26 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y a plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Ça implique une double chose. Ben, ça implique tout simplement que, premièrement, il y a des gens qui disent ben, « tout ne peut pas être faux ». En fait, chacun de ces arguments est faux, mais l'ensemble donne une impression de solidité, une forteresse comme ça, de crédulité, qu'il est difficile de prendre d'assaut. Et le deuxième élément, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça crée aussi une intimidation. Parce que pour aller discuter contre un conspirationniste, pour aller discuter contre un anti-vaccin, vous avez intérêt à être préparé. Hein. Parce que si vous n'êtes pas préparé, vous allez perdre la face. Vous n'aurez pas d'argument, en fait. Eux, ils en ont beaucoup. Il ne faut surtout pas les prendre pour des idiots, pour des imbéciles. La crédulité, ce n'est pas synonyme de bêtise. Hein. C'est synonyme, en fait, d'affaissement de la vigilance épistémique et qui fait qu'on va accepter des arguments qui sont vérolés, mais qui paraissent vrais. N'est-ce pas ? Et en plus, il va vous falloir beaucoup de temps pour défaire chacun de ces arguments. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Alain de Brandolini, c'est un informaticien. et qui établit que la quantité d'énergie nécessaire à réfuter les idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Bref, il faut beaucoup moins de temps pour diffuser une ânerie que pour de la défaire. Et pour vous illustrer ça, il y a cet exemple, c'est pas, que j'ai trouvé, qui n'est pas de moi, mais que je trouve assez amusant. Vous voyez, ça, c'est l'image d'un film de super-héros, Captain America, bon, je ne sais pas si vous connaissez, peu importe, qui a été tourné en 2011. Et j'ai entouré là, sur l'image, deux choses. Une image d'une bière, qui est la bière Corona, et une autre image d'un objet, on ne sait pas ce que c'est, avec des pics, un peu comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit, oh là, c'est bizarre, la bière Corona et un virus à côté, un virus à spike, coronavirus, est-ce que ce ne serait pas une annonce de ce qu'ils vont nous faire ? C'est-à-dire fabriquer un virus en laboratoire, etc., etc. L'argument est assez faible, hein. C'est pour ça qu'il faut des mille feuilles argumentatifs, hein, parce que si vous n'avez que ça, vous dites, ouais, c'est juste une coïncidence, quoi. Et puis, surtout, on se demande la théorie qu'il y a derrière, c'est pour ça que ce sont souvent des proto-croyances, c'est quoi la théorie ? C'est qu'il y a des grands méchants qui conspirent en secret pour empoisonner une partie de l'humanité, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un clin d'œil dans un film, quand même, pour vous dire, vous avez vu, un peu comme le grand méchant de James Bond, vous savez, il se fait avoir à chaque fin parce qu'il parle à la fin, quoi. Et donc, bon, admettons, en tout cas, face à cette théorie du complot qui était en train de naître, parce que c'est un ami à lui, donc son ami va essayer de défaire cet argument. Parce qu'on voit pas bien ce qu'il y a en fait. Est-ce que c'est vraiment un coronavirus ? Même si c'était un coronavirus, il y en a plusieurs genres, hein, des coronavirus, ce serait peut-être juste une coïncidence, quoi. La bière Corona, coronavirus, bref. Donc il va regarder, parce que comme ça se passe à Times Square, vous l'aurez peut-être remarqué, aux États-Unis, il y a plein de films qui se sont faits là. Donc il regarde tous les tournages qui se sont faits à la même période pour voir si on peut avoir une image un peu plus claire. Il trouve pas. Donc, imaginez déjà le temps passé. Donc c'est ça la loi de Brandolini, hein. Le type, ça lui a fallu 5 minutes, hein, pour voir cette coïncidence, puis pour porter ça sur Twitter. Et il se dit, oui, mais en même temps, je n'ai pas trouvé, mais sur Times Square, il y a aussi beaucoup de films de touristes. Tout le monde, justement, a un téléphone portable, donc même si on est en 2011, il y en avait un peu moins. Et donc, il prend sur YouTube, on peut faire des recherches spécifiques. Et donc, il trouve à avril 2011, à Times Square... il trouve finalement, alors c'est cette image-là qui est censée être peut-être le coronavirus, il trouve cette image qui est beaucoup plus propre. Allez, non, mais voyez le temps qu'il a fallu. Là, on le voit en haut, hein, cette image, et il se dit, mais on ne voit pas encore bien, donc il nettoie et il retrouve l'image source. Et en fait, il s'agit de ça. C'est pour les pas de Barilla. Donc, voilà. Imaginez le temps qu'il lui a fallu. Si on doit faire ça pour les 125 arguments en faveur de la théorie du complot ici ou là, bah oui, c'est normal qu'on refuse. Et en même temps, en refusant le combat, on laisse faire. Et alors, il y a un autre élément, je terminerai là-dessus. On est quand même du temps pour échanger. Il y a un autre élément, évidemment aussi, je vous ai parlé d'une offre qui va au-devant de nos demandes. Eh bien, cette offre, elle ne va pas seulement au-devant de notre demande de conflictualité, de sexualité, de toutes ces passions mauvaises aussi, des goûts, etc., que j'ai évoqués. Elle va aussi dans le sens de nos attentes intellectuelles spontanées. C'est-à-dire qu'il y a des formes de raisonnement, qu'on appelle les raisonnements captieux, qui nous semblent vrais, mais qui sont faux. Alors, pour vous en donner un exemple... c'est un problème qui est très connu, vous le connaissez sans doute, peut-être. Mais si vous ne le connaissez pas, essayez de vous amuser à le résoudre. C'est un problème qu'on utilise dans un test qu'on appelle le CRT, Cognitive Refreshment Test. Donc on pose ce genre de test à des personnes. On est obligé d'en changer d'ailleurs parce que maintenant tout le monde le connaît, ce problème. Enfin, si vous ne le connaissez pas, essayez de vous amuser. Voilà, c'est une balle de baseball et une batte de baseball qui coûtent ensemble 110 euros. D'accord ? La batte coûte 100 euros de plus que la balle. Donc la question est, combien vaut la balle ? Donc normalement, vous devriez être en train de vous dire, il ne faut pas que je réponde 10 euros. Ouais. Si vous riez, c'est que sans doute vous avez pensé à ça. Et c'est intéressant que vous ayez pensé à ça, parce que c'est précisément ce que notre intuition cognitive va nous suggérer. Compte tenu du truc, c'est... Mais comme on est dans une condition sociale particulière, vous êtes capable de rétrojuger sur votre intuition. Vous dites, oh là là, il ne faut pas que je suive mon intuition, sinon je vais avoir l'air bête. Pourtant, je ne trouve pas forcément d'autres réponses que 10 euros. Bon, ça ne peut pas être 10 euros, parce que si c'était 10 euros, la batte vaut 100 euros de plus. Donc elle vaudrait 110 euros la batte. 110 plus 10, ça fait 120, c'est pas bon. La vraie réponse, qui est quand même très contre-intuitive, c'est 5 euros. On dirait pas ça quand on regarde l'énoncé, comment ça peut être 5 euros ? 5 euros, parce que si la batte vaut 100 euros de plus, elle vaut 105 euros. Et si la balle vaut 5 euros, 105 plus 5 égale 110, c'est bon. C'est un problème de CME1, quoi, de mathématiques. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas une question d'intelligence, mais certains problèmes présentés d'une certaine façon peuvent, en fait, trahir notre esprit. Notre cerveau est formidable, mais il déconne systématiquement. Et on a établi aujourd'hui une cartographie de plus de 150 erreurs typiques qu'on appelle des biais cognitifs, vous avez peut-être entendu parler de ça, et qui en fait expliquent une grande partie de la diffusion des fausses informations. Enfin, une partie. La variable qui explique le plus la diffusion de fausses informations, c'est-à-dire le fait que vous croyez une fausse information, que vous allez éventuellement vous-même la diffuser, et ça c'est une des deux données mondiales solides, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. On est tous des paresseux intellectuellement. Bah, la pensée paresseuse, c'est celle qui va vous dire que c'est 10 euros dans ce problème-là. Évidemment, quand vous êtes dans une condition sociale où vous vous méfiez de votre propre intuition, vous n'allez pas aller vers là. Mais dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas forcément le temps de nous méfier de nos intuitions, surtout quand notre intuition va en plus dans le sens de nos convictions politiques, par exemple, ou idéologiques. On va être d'autant moins armé pour se méfier de ses intuitions. Parce que l'information va être cadrée donc de mille façons par les logiques algorithmiques que je vous ai données et qui vont rencontrer, encore une fois, le fonctionnement de notre cerveau. Et pour vous montrer la puissance de ce cadrage, et je m'arrêterai vraiment là, voilà un petit problème. Supposons que 600 personnes étaient exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options, sauver 200 personnes ou avoir 33% de chance de sauver tout le monde et 66% de sauver personne. Bon, il n'y a pas de bonne solution, c'est un dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de sauver tout le monde et prendre un gros risque ou minimiser le risque, mais laisser à coup sûr... Ouais, bon, ouais. Donc on a posé le problème à un échantillon de personnes, on a des résultats, et on pose le problème à un autre échantillon de personnes qui n'a pas vu cette première formulation, sauf que cette fois on lui dit ça. Supposons que 600 personnes, etc. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Et il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% que tous survivent. D'accord ? C'est exactement le même problème, hein ? Simplement, on a changé un peu le cadre de présentation. Donc voilà les deux problèmes. C'est exactement le même dilemme moral. Sauf que dans le premier cas, 72% des sujets de l'expérience choisissent la première option. D'accord ? Et dans le deuxième cas, c'est 78% qui choisissent l'option 2. Donc vous voyez comment le cadrage de l'information est nature, en tout cas statistiquement, collectivement, à susciter des réactions psychiques qui posent un énorme problème. C'est pourquoi... Tout ce qui est en train de nous arriver est un problème d'ordre civilisationnel. Cette année, nous allons voter sur la planète massivement. Aux États-Unis, en Europe, en Inde, etc., etc. On sait en plus de ça, parce que je ne vous en ai pas du tout parlé, qu'il y a des ingérences étrangères qui visent à propager ces fausses informations, c'est-à-dire à souffler sur les braises, en vue de déstabiliser les démocraties libérales. On sait très bien d'où viennent ces attaques. Il y a 4 pays en particulier qui sont concernés. Donc ça amplifie encore les choses. Si j'ajoute à cela l'apparition massive de l'intelligence artificielle qui va permettre de développer ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire des faux comptes qui vont diffuser des fausses informations massivement, qui paraîtront tout à fait normales pendant 2 ou 3 ans parce qu'ils seront animés par des IA. Ça existe déjà, l'astroturfing. Sauf que les IA vont permettre d'animer ces comptes mécaniquement en ressemblant de plus en plus à une activité d'humain. Et surtout, le fait que nous sommes déjà, que nous côtoyons déjà les deepfakes, les fausses photos, il y en a de plus en plus. Regardez, la campagne américaine est déjà truffée de deepfakes. On voit Donald Trump en photo avec des électeurs noirs, comme ça, qui ont l'air très contents, plein de noirs autour de lui, sauf que c'est une photo qui est fake, hein, et qui est diffusée massivement pour ses partisans, parce qu'on sait que l'électorat noir vote massivement Joe Biden, mais un peu moins que la dernière élection. Donc ils essayent de grappiller, notamment chez les jeunes noirs garçons, c'est là où ils ont le plus de chance, ils essayent de grappiller une partie de l'électorat, et notamment dans les États qui peuvent basculer, ça peut se jouer à quelques pourcentages près. Et donc en fait, cette diffusion massive de fausses informations, de deepfakes, etc., ce qu'elle risque de faire en nous, c'est pas que nous allons forcément croire ces photos, c'est que nous n'allons plus rien croire du tout. Nous allons systématiquement nous dire « ouh, pff, méfiance, etc. » Alors ça pourrait être une bonne nouvelle, on va dire bah, « c'est bien, ça va exciter la méfiance », sauf que non, probablement, ça va plutôt exciter la méfiance généralisée contre les médias, etc., qui est déjà extrêmement forte et qui est aussi très fortement corrélée, bah, à quoi ? Bah, justement, à la tentation conspirationniste. Donc voilà la situation, tout n'est pas perdu. mais tout n'est pas gagné. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.